Nous avons commencé une année avec un désir de s'engager un peu plus pour le Seigneur et un désir d'aller de l'avant aussi encore avec Dieu. Et une des manières de s'engager pour le Seigneur, une des manières de servir Dieu, d'être fidèle à une tâche précise pour Dieu, c'est de travailler aussi à évangéliser, à gagner des âmes pour Christ. Je pense que ce n'est pas la première fois que je le dis, ce ne sera pas la dernière fois, je le répéterai encore et encore, jusqu'à ce que je vois que le mécanisme fonctionne dans la réalité, dans le concret de notre vie de tous les jours. Être chrétien, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire avoir une tradition, naître d'une famille chrétienne, avoir des parents qui étaient des chrétiens? Est-ce que ça veut dire fréquenter une église, être bien fidèle tous les dimanches, et peut-être même à toutes les autres réunions? Est-ce que c'est ça, être chrétien? Être chrétien, vous savez ce que c'est. C'est être disciple du Christ. Un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui suit un maître. Pour qu'il y ait un disciple, il faut qu'il y ait un maître. Un maître, c'est un enseignant, c'est un conducteur, c'est un guide. C'est quelqu'un dont on suit l'enseignement, dont on suit le mode de vie, qui est un modèle. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître et qui apprend à faire ce que fait le maître. Et c'est ça que nous sommes en tant que chrétiens. Nous sommes les disciples de Christ, c'est-à-dire que nous suivons Jésus et nous faisons ce que Jésus a fait. Donc dans le disciple coule la vie du maître, coule la vie, les intentions, le modèle du maître. Et cette vie le transforme chaque jour à la ressemblance avec son maître. Du moins, s'il se conforme à la volonté de son maître et s'il se laisse transformer par lui. Alors, une autre question. Vous voyez, on est sur un terrain connu. Donc, tout ce que j'ai dit, vous connaissez. Une autre question. Comment devient-on chrétien? Je viens de le dire, est-ce que c'est par la naissance dans une famille chrétienne? Non. Comment on devient chrétien? On devient chrétien de deux manières, n'est-ce pas? On devient chrétien d'abord en croyant en Jésus-Christ. Et quand je parle de Jésus, je parle à la fois de sa personne, mais aussi de son œuvre. En croyant à la vérité de cela, en croyant à ce que Jésus dit, à ce que Jésus a fait, en croyant à ce que Jésus est. Deuxième chose, en s'appropriant cet acte de foi, en le recevant au moyen de la prière d'invitation, en s'appropriant en disant « Seigneur Jésus, viens dans ma vie, deviens mon Seigneur et mon Sauveur ». Alors on devient chrétien. C'est la parole de Dieu qui le dit. La Bible soutient tout ce que je suis en train de dire. C'est ce qui a été l'expérience de chacun d'entre vous, n'est-ce pas? C'est ce qui a été l'expérience, mon expérience à moi. Mais une autre question que je posais avec le groupe d'évangélisation lorsque nous avons eu notre réunion, pourquoi est-ce que Dieu, une fois que nous sommes sauvés, ne nous a-t-il pas simplement retirés? Ça aurait été génial, vous ne pensez pas? Tu te convertis, parti, disparu au ciel. Plus de problèmes, plus de soucis, plus de maladies, plus de combats, plus de « oh, j'ai mal ici », plus de gens qui vous font de la peine, plus de gens que vous faites de la peine, parce qu'il n'y a pas que dans un sens. Hein. Non, fini, au ciel, tranquille. Pourquoi est-ce que Dieu n'a-t-il pas fait les choses comme ça? Pourquoi a-t-il voulu que nous restions une fois convertis? La réponse, c'est dans Jean au chapitre 17, où clairement il est... Non, il n'y a pas, je n'ai pas le texte. La réponse est dans Jean au chapitre 17, il dit, « De même que tu m'as envoyé, moi aussi, je les envoie. » Notre rôle, une fois devenu chrétien, est d'être des envoyés du Christ. des hommes et des femmes, jeunes et vieux, qui sommes là pour être des ambassadeurs, être des missionnaires, être des porte-paroles, être des témoins, des gagneurs d'âmes. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment prendre simplement conscience de la nécessité, de l'urgence, de l'importance de pouvoir parler de toi et d'avoir le souci de gagner des âmes pour ta gloire et pour faire avancer ton royaume. Seigneur, c'est une façon à nous de nous engager et c'est un engagement dans lequel toi tu nous prends, quelque chose que tu nous dis dans ta parole. Aide-nous Seigneur à prendre conscience de cela et à concrètement chercher les voies et moyens pour appliquer cela dans nos vies. Seigneur, fais-nous grâce autour de ta parole par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Nous allons prendre des petits extraits de texte. On n'aura pas un texte tenu sur lequel je vais parler, mais simplement des textes qui nous rappellent simplement l'urgence de l'évangélisation, l'urgence de travailler pour l'œuvre de Dieu. Dieu n'a pas d'autre partenaire pour gagner les âmes que vous et moi, que toi et moi. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous l'appelons l'ordre suprême. Nous l'appelons le commandement suprême. Dieu veut que nous soyons ses envoyés. Et ce travail doit-il être fait par qui ? Qui doit aller ? Qui doit, de toutes les nations, faire des disciples ? Qui doit les faire ? Est-ce que c'est le groupe d'évangélisation ? Est-ce que c'est le pasteur et sa famille ? Est-ce que c'est les anciens et les diacres ? C'est les responsables d'église ? Est-ce que c'est les frères les plus zélés de l'église ? Non, la part est pour nous tous, la tâche nous incombe. Et comment le faire concrètement ? Comment fait-on concrètement pour évangéliser ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a plusieurs façons, bien sûr. Elle me dit, oui, il y a plusieurs manières d'évangéliser. J'évangélise, ou je pense que j'évangélise, quand j'invite un ami à l'église. Ouais, il vient à l'église, il trouve ça très charmant. Ils sont beaux, ou ils sont laids, j'en sais rien, moi. Ça dépend des jours. Et voilà, il a trouvé une communauté. Il va trouver des copains, des copines, des gens avec qui il va bavarder, qui va aimer ou ne pas aimer. Il va trouver peut-être un climat tellement magnifique et merveilleux où il va trouver là la guerre, des gens qui se détestent et qui commencent à lui dire, tu sais, dans cette église, ça s'arrête là. Est-ce que c'est l'évangélisation, ça ? Non, non. C'est une pré-évangélisation. C'est une étape préalable à l'évangélisation, mais ce n'est pas l'évangélisation. Est-ce qu'évangéliser, ça veut dire donner son témoignage ? Oui, tu sais, moi, je suis chrétien. Oui, pour ne pas être... Ouais. J'ai toujours tendance à dire cette blague-là, mais c'est pas bien. Comme c'est enregistré, je vais pas le dire. Bon, donc, est-ce que c'est dit, voilà, moi je suis chrétien. Et alors racontez, oui, voilà, moi je suis chrétien, Jésus m'a sauvé, etc., etc., etc. Et c'est ça, évangéliser. Ouais. Ouais. C'est évangéliser. Mais, on se situe dans l'expérience personnalisée. Parce que la personne à qui je raconte mon histoire a le droit de confronter mon histoire avec son histoire. C'est son droit. Je lui raconte ce que je lui raconte et lui me dit, ah, oui, oui, mais toi, tu as eu ceci, mais moi, j'ai eu cela. Et puis, c'est relatif. Après, je fais quoi avec ça ? Est-ce qu'évangéliser, ça veut dire vivre une vie tellement correcte, tellement impeccable que non, les gens vont se convertir. Oui, peut-être. C'est vrai qu'il faut vivre une vie impeccable. Parce que nous le faisons non pas pour évangéliser, nous le faisons pour honorer Dieu, pour être en conformité avec notre façon, avec le choix de notre vie, c'est-à-dire pour être en conformité avec notre position, notre identité de chrétien. C'est pour ça que nous vivons notre vie d'une manière correcte, conformément à la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui va évangéliser les gens. Oui, ça peut. Il y a des miracles, il y a des choses, des conversions qui ont eu lieu grâce à ça. Mais ce n'est pas suffisant. C'est difficile. Évangéliser, d'abord et avant tout, c'est annoncer l'Évangile. Proclamer l'Évangile. Prêcher l'Évangile. Autrement dit, c'est parler. C'est parler. Mais pas parler de n'importe quoi. Parler des choses qui donnent les bases sur lesquelles les personnes vont comprendre en quoi consiste le salut de Jésus-Christ. Autrement dit, les gens vont se dire, ah, maintenant, si je dis oui ou je dis non, c'est en âme et conscience, en bonne connaissance de cause. Comprenez la différence? Je peux amener quelqu'un dans l'église, il se convertit parce qu'il croit que c'est que moi je crois, ou c'est que moi je lui ai dit, c'est ça qui concerne la foi chrétienne, et puis cette personne va vivre sa vie en tant que chrétien, mais il va avoir des gros problèmes. Parce que la notion de l'évangile n'a pas été comprise. Et parce qu'elle n'a pas été comprise, ça risque de faire des problèmes dans sa propre vie à lui et dans ses relations avec les autres. Comment est-ce qu'on évangélise? Comment est-ce qu'on gagne des âmes pour Christ? On les gagne en parlant. Vous voulez des preuves? Romains chapitre 12, chapitre 10, pardon. Et nous allons lire là du verset 12 au verset 14, et puis après, on verra le verset 17. Regardez, Romains chapitre 12. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, c'est-à-dire entre le religieux, celui qui est sous la loi de Dieu, qui pratique le judaïsme, et le païen. Il n'y a aucune différence entre le juif et le grec, puisque puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Ok? Vous voyez, ce texte insiste sur la Seigneurie de Dieu par-delà nous. Il n'est pas seulement notre Seigneur, il est le Seigneur de tous les hommes, de toute la terre. Verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, qui ouvre sa bouche? Verset 17. Ainsi donc, la foi vient de ce que l'on entend, et de ce que l'on entend, c'est ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Deux choses. Un, quelqu'un a ouvert la bouche, quelqu'un a entendu, mais il n'a pas entendu n'importe quoi. Il n'a pas entendu un témoignage, il n'a pas entendu un développement très intelligent sur la spiritualité, sur la théologie. Ce n'est pas ça qu'il a entendu. Il a entendu la parole du Christ. Deux choses importantes. Mais je sais, vous allez me dire, parler n'est pas facile. Parler n'est pas facile. Il y a des gens qui ne savent pas parler parce que simplement, il ne leur est pas donné naturellement de s'exprimer. Il y a des gens qui ne savent pas parler parce qu'ils ont un débit de parole très, 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 très difficile. Il y a des gens qui ne savent pas toujours bien comment structurer les choses. Il y a toutes sortes de bonnes raisons pour lesquelles parler n'est pas facile. Il y a plus de Moïse que des gens comme des Apollos. Moïse savait qu'il avait des difficultés pour parler. Mais Dieu veut que nous parlions de lui. Dieu veut que nous parlions de son évangile. Dieu veut que nous gagnions des âmes pour Christ. Bien sûr, qu'est-ce qui bloque? C'est pas tellement le fait de parler parfois, mais c'est qu'est-ce qu'on va dire? Mais qu'est-ce que je vais donc raconter? Que vais-je expliquer? Qu'est-ce que je vais raconter aux gens pour les emmener à Christ. Alors, ce matin, j'aimerais que nous revenions à quelque chose que j'avais dit au moment où, il y a déjà deux, trois ans déjà peut-être, que j'avais dit, lorsque j'ai parlé de l'évangélisation en tant que travail personnel. Nous sommes appelés tous individuellement à le faire. Et d'une manière personnelle, nous avons un équipement à nous doter pour pouvoir le faire. J'avais parlé d'un petit livret, vous vous souvenez? Oui? Qui se souvient? Tout le monde. Waouh! Et qui est-ce qui a encore un exemplaire de ça? Toi, t'en as encore un? Oui. Ah oui, mais toi, c'est un peu normal. Il a une quantité, lui. Est-ce que, avez-vous déjà utilisé ça depuis le temps qu'on en a parlé? Merci, Claude. Avez-vous déjà quelqu'un, à part Claude, quelqu'un a-t-il utilisé ça?
Non, pas maintenant. Pas depuis que j'en ai parlé. Tu l'as utilisé? Ah, je ne sais pas. Mais je l'ai utilisé dans le passé. Ouais, à travers les quatre lois spirituelles. Ouais, je comprends. Quelqu'un a-t-il lu ça? Ah oui, c'est génial ça.
Écoutez, je ne sais pas, mais cette année, je souhaiterais que vraiment nous puissions aussi axer notre travail, pas seulement sur l'amitié, la coopération mutuelle, mais je voudrais vraiment que nous engagions aussi à gagner des âmes pour Christ. Et je pense que ceux qui ont conçu ces petits ouvrages, ceux qui l'ont mis en œuvre, c'était vraiment des gens sérieux. Des gens qui ont voulu rassembler le contenu biblique et théologique de l'Évangile. Ils ont voulu rassembler ce qu'on peut donner comme message de l'Évangile à quelqu'un et qui le mette sur le vrai chemin du salut parce que ce sont des éléments à la fois doctrinaux, bibliques et aussi théologiques qui sont dedans et qui sont importants. J'aimerais vraiment que nous puissions apprendre à connaître cet ouvrage, ce petit livre. Ceux qui l'ont, s'il vous plaît, relisez-le. Ceux qui ne l'ont pas, s'il vous plaît, venez à moi pour l'avoir. Ou allez chez Richard, il va toujours trouver une quantité nécessaire pour vous le donner. Dans cet ouvrage, il y a quatre points essentiels pour expliquer aux autres ce que c'est que le salut. Quatre points essentiels que j'aimerais bien aborder. Peut-être pas aujourd'hui, dans son entièreté, puisque ça prendra du temps, mais j'aimerais l'aborder, en tout cas dans les prédications qui vont venir. Mes amis, je ne suis pas en train de chercher à faire un cours avec ceci ou simplement à m'amuser. Je pense que, je ne sais pas, mais je pense que c'est urgent aujourd'hui d'apprendre à parler aux gens. Nous avons une société qui se déchristianise et de plus en plus. La loi de l'homme, rentre de plus en plus dans nos églises. On cherche de plus en plus un moyen pour organiser l'église à la sauce des hommes. Un peu comme on a fait avec l'église orthodoxe, catholique orthodoxe, dans les pays qui étaient sous le régime communiste. Demain, on nous dira comment il faut lire notre Bible, comment il faut l'interpréter, ce que nous devons croire et ce que nous ne devons pas croire. Mais si nous avons fait le travail de gagner des âmes, et si de plus en plus des gens autour de nous et par-delà nous, il y a de plus en plus des gens qui croient et qui sont engagés avec le Seigneur, nous pouvons ensemble prier, nous pouvons ensemble aller de l'avant, nous pouvons avoir un témoignage puissant dans notre société. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ. Les quatre points ici, qui sont les quatre points importants, et je vais y revenir dans les autres prédications, c'est d'abord le premier point, quand on a parlé avec quelqu'un, et qu'on doit gagner, essayer de gagner une âme à Christ. Premier point, Dieu vous aime. Dieu aime les humains. Dieu aime les hommes et il veut avoir une relation vivante avec eux. C'est ça que Jean, chapitre 3, verset 16 dit. Dieu veut une relation vivante avec les hommes et parce qu'il aime. Deuxième point important, l'obstacle à cette relation vivante désirée par Dieu est le péché. Romains chapitre 3, verset 23, le péché est universel. Tous, sans exception, sont pécheurs. Troisième point important, la solution de Dieu qui rend possible cette relation d'amour voulue par Dieu, la solution, la seule, l'unique, c'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Quatrième point essentiel, important aussi pour l'évangélisation, pour l'annonce de l'évangile, il faut d'abord croire en cette solution de Dieu, c'est-à-dire en Jésus-Christ, et aussi, il faut se l'approprier personnellement dans la prière. Il faut dire, ok, cette réalité-là, elle est aussi à moi. On fait le choix des deux sortes de vie. Ou soit on vit une vie qui est la vie que tout le monde vit, ou on fait le choix de vivre sous la souveraineté, sous la bannière, sous l'autorité de Dieu. Et en faisant cette prière, on dit, ok, je tourne le dos à cette autre vie où moi j'aurais été mon propre roi pour maintenant vivre sous la royauté de Dieu, sous la souveraineté de Dieu, sous les ordres de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui décide de ma vie, c'est ma vie et se met en conformité avec la volonté de Dieu, avec ce que Dieu veut. Si franchement vous vous donnez la peine de lire ce bouquin, ce petit livret, et vous vous donnez la peine de pouvoir l'utiliser, vous allez voir que même dans votre propre mémoire se fixera clairement les éléments essentiels. Vous savez que les quatre plans dont je viens de vous parler, ce sont des quatre domaines de théologie. Ces quatre domaines de théologie différentes et qui font l'objet d'études approfondies par des gens très très sérieux qui passent leur vie là-dessus. Ces quatre points sont aussi les quatre points doctrinaux essentiels qui font l'objet des enseignements approfondis. Il y a une œuvre qui s'appelle le Campus pour Christ qui a fait tout un travail incroyable avec ces quatre points. Il les a pris chaque point individuellement et l'a développé vraiment à fond. Il y a aujourd'hui une école de théologie à Paris qui ne fait que ça, qui ne travaille que sur base de ça. Si on apprend donc, on s'habitue donc à le lire, on maîtrise ce petit livret, on peut l'utiliser dans nos discussions, ça facilitera nos discussions avec les gens et on va pouvoir avancer. Encore une fois de plus, je rappelle que le but n'est pas pour nous de ramener des trophées, hein. Le but n'est pas de dire, ouais, j'ai évangélisé, attends, combien? 10, 20, 30, ouais, tu sais, j'ai évangélisé 100 personnes dans ma vie. C'est pas ça le but. Le but, c'est pas des trophées. Parce que ce que nous gagnons, nous ne les gagnons pas comme des trophées. Nous les gagnons comme des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Et vous voyez, un disciple, le travail de faire un disciple, c'est pas seulement un travail de le gagner à Christ, hein. Vous comprenez? C'est un travail qui va plus loin. Si je gagne quelqu'un pour en faire un disciple, ça met du temps, hein. C'est pas un boulot qui se fait, je l'emmène à Christ, allez, je le jette dans l'église, je fais mon boulot, église, occupez-vous de lui. Et alors la personne s'égare complètement après. Église, je vous ai amené un trophée. Et vous avez fait quoi avec ça? Non. Faire un disciple, c'est commencer avec quelqu'un et le faire grandir spirituellement jusqu'à ce que cette personne arrive à la maturité. Bien sûr, l'Église pourrait être là pour vous aider, vous accompagner dans cette tâche-là. Mais cette tâche vous incombe aussi, comme elle incombe à chacun d'entre nous. L'Église peut être là pour donner tous les moyens, et même pour s'occuper des cas les plus difficiles peut-être, les cas où les gens veulent aller beaucoup plus loin, peut-être les gens veulent se lancer dans des ministères, aller beaucoup plus loin, oui. Mais chacun de nous a un rôle, a une tâche. Si je gagne quelqu'un à Christ, j'ai la tâche de suivre cette personne-là, de l'encourager à venir à l'église, de l'encourager à aimer les frères et les sœurs, surtout les plus antipathiques, les moins sympas. Vous savez, les fauteurs de troubles là. Eh bien, surtout eux, je dois l'encourager à les aimer. Je dois l'encourager à être fidèle dans tout, dans ce qui se passe dans l'église. Je dois l'encourager à grandir dans la maturité. Et je dois lui montrer le chemin de la maturité. Ça veut dire que moi, je dois me préparer moi-même à remplir toutes ces conditions-là. Parce que si je ne suis pas fidèle dans mon église, comment puis-je encourager quelqu'un à être fidèle? Si moi je me fâche, si je déteste des gens, comment voulez-vous que je puisse encourager des gens? Vous voyez, il faut qu'il y ait un travail aussi sur moi-même. Et vous voyez, si nous considérons sérieusement le travail d'évangélisation, nous avons un double effet. Il y a l'effet, d'une part, des gens qui sont gagnés à Christ, qui vont grandir, mais il y a l'effet de nous-mêmes, qui allons de plus en plus aller de l'avant, puisque nous sommes comme des wagons qui tirent, des locomotives. Et donc, nous allons nous-mêmes aussi nous remettre en question, nous-mêmes aussi aller de l'avant, changer aussi, nous laisser transformer par le Seigneur pour que nous aussi, nous soyons des meilleurs chrétiens possibles, afin d'être des exemples pour ceux que nous conduisons à Christ ou ceux que d'autres ont conduit à Christ. C'est du boulot. Mais c'est un boulot qui est tout à fait accessible, puisque Dieu dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous avons tout. Nous pouvons donc le faire. Nous pouvons donc avancer avec cela. La prochaine fois, donc, je vais reprendre les différents points, les quatre points dont je viens de parler, essayer de les donner de manière concrète. Ceux qui le souhaitent, je vous invite à amener à une feuille, à des notes, comme ça vous prenez des notes pour vous, parce que ça ajoutera des choses à ce qui est déjà ici dedans, et ça permettra de mieux vous positionner quand vous parlez avec quelqu'un. En tout cas, ceux qui le désirent, venez avec des notes, hein, ça sera bien. Ceux qui ne le désirent pas, j'espère que vous avez une bonne mémoire pour retenir les choses et pouvoir les organiser dans votre mémoire. Mes amis, je vais terminer par ça. Soyons conscients d'une chose. Cette église, l'église protestante évangélique d'Autigne, elle ne se remplira pas toute seule. Soyons conscients de ça. Les bancs qui sont vides ne se rempliront pas toutes seules. Ce n'est pas par comme ça. Non. Ces bancs se rempliront par votre travail, par votre transpiration, par votre concours, par notre concours à nous tous. Autour de nous, l'évangile ne va pas prospérer tout seul, comme ça. L'évangile va prospérer autour de nous par notre concours. C'est à nous de parler, pas simplement de montrer l'exemple, mais de parler et de vivre ce que nous disons. Autour de nous, mais aussi plus loin que nous. C'est la tâche à laquelle Dieu nous a conviés. C'est ce pourquoi nous sommes restés sur la terre. Passer à côté de ça, c'est passer à côté de quelque chose d'essentiel. Colossiens chapitre 1, nous allons voir le modèle de Paul et terminer par cela. Écoutez ce que Paul dit. Paul est dans son ministère et il parle de son ministère. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Son travail n'est pas un travail simple. Vous savez qu'une fois il a été tabassé, il a été laissé pour mort. Vous savez ça? Il en a vu des vers, des pas mûrs. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances du Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Il est prêt à ça. Voyez, il ne souffre pas parce qu'il fait souffrir les autres. Il ne souffre pas de la souffrance des autres. Il souffre pour Christ. C'est différent. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélée maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille. C'est à quoi je travaille. Combattant avec force, avec sa force qui agit puissamment en moi. Le boulot de l'apôtre Paul est de faire en sorte qu'il annonce l'évangile, puis il fasse grandir ceux qui sont sauvés, il les fasse atteindre la maturité spirituelle. Ça, c'est son boulot. C'est sa tâche. Mais vous avez vu que cette parole est présentée comme un mystère. Un mystère qui a été caché dans tous les temps et dans tous les âges, mais qui a été révélé à la fin des temps. Qui a été révélé à qui ? À ses saints. C'est-à-dire à nous, aux croyants. Et quel est ce mystère ? Quelle est cette chose cachée que Dieu a en quelque sorte décachetée, révélée ? Eh bien, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Vous voyez ? C'est une tâche qui nous incombe à nous aussi. L'apôtre Paul a sa charge à lui, mais il y a une charge commune à nous tous. Ce mystère caché, nous avons à le faire connaître. Nous avons à participer à cette œuvre apostolique, c'est-à-dire le travail des apôtres qui sont en train d'implanter. Nous avons à faire ce travail-là. Bien sûr, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller vous enlever dans une église où il y a un apôtre. Hein. Je ne parle pas des apôtres d'aujourd'hui. Moi, je parle des apôtres de la Bible, qui sont là dans la Bible. Et je dis, nous avons un temps apostolique durant lequel nous sommes, où nous avons à travailler nous aussi à l'avancement du royaume de Dieu à travers le fait de gagner des âmes pour Christ et ainsi de favoriser la construction, le développement des églises. C'est notre tâche. Alors ce matin, je vous invite à y réfléchir très sérieusement. À ne pas simplement dire, ouais, mais moi, je sais pas. Ouais, mais moi, je suis pas capable. Ouais, mais moi, non, tu es capable parce que Dieu veut que ça soit toi. C'est tout. T'es pas capable parce que tu parles bien, t'es pas incapable parce que tu ne parles pas bien. Vous avez vu, l'apôtre Paul dit, la puissance qui agit en lui. C'est pas par lui, c'est par la puissance de Dieu. Faisons de Dieu un partenaire. Faisons du Saint-Esprit notre partenaire pour nous aider à évangéliser. Que le Seigneur nous aide. Prions, prions et demandons l'aide de Dieu pour que nous puissions être aussi fidèles, aussi engagés dans le travail d'évangélisation. Il y aura toujours quelqu'un autour de nous qui finira par nous dire « Mais j'aimerais bien devenir chrétien. Comment on fait pour devenir chrétien ?» Tout le monde n'est pas difficile. Hein. Tout le monde n'est pas compliqué. Et en plus, si jamais quelqu'un est compliqué, et alors ? Est-ce qu'on va nous tuer parce qu'on va partager l'évangile ? Dieu merci, on n'est pas encore comme ça dans ce pays. Mais un jour viendra. Alors c'est maintenant qu'il faut travailler pour cela. Je vais donc terminer. Prions. Seigneur, merci de mettre dans notre cœur l'urgence d'évangéliser. Merci de nous donner à utiliser du matériel qui a déjà fait aussi ses preuves, qui est une manière qui nous facilite le travail. Seigneur, un manuel, une manière de faire que des hommes inspirés par le Saint-Esprit ont mis en place. Seigneur, accorde-nous d'utiliser tout ce que nous pouvons pour que ton royaume avance. Aide-nous, Seigneur, à cette tâche-là, au nom de Jésus. Amen.